Aujourd'hui, à Rencontre, il est question de Saint Bruno. Saint Bruno, fondateur des moines les plus austères, les Chartreux, qui ont été fondés en l'an 1101. Saint Bruno, c'est vraiment une vie fascinante, une vie très intéressante. C'est quelqu'un qui est né à Cologne, en Allemagne, l'Allemagne d'aujourd'hui, en pays germanique, vers l'an 1030. Sous le règne d'un empereur, l'empereur Conrad II, et on sait que peu de choses sur sa famille et sa jeunesse. La seule note biographique sur notre saint précise seulement que ses parents étaient très, très à l'aise. Il faut bien savoir que la ville de Cologne, c'était quand même une ville très importante, qui connaissait à cette époque une grande prospérité, même sur le plan économique. C'est parce qu'il y avait là, à Cologne, un bouillonnement culturel, un bouillonnement religieux qui était très intéressant, puis ça a imprégné notre Bruno durant les premières années de sa vie. Il étudie d'ailleurs la collégiale, on appelle ça la collégiale, c'est une école rattachée à la cathédrale qui est située un peu à l'écart du cœur de la ville. Il est bon élève. On sait qu'à l'âge de 14 ans, vers les années 1044, il quitte sa ville de Cologne et puis il se rend en Champagne, à Reims. Reims, à cette époque, c'est une métropole en France, une métropole royale, avec les tombeaux des rois, c'est la réputation grandissante de Reims, hein, une ville très importante. Et quand Bruno arrive à Reims, il trouve une ville où les conditions pour étudier paraissent être très, très favorables. Il y a une belle bibliothèque, heureusement. Il y a aussi cette école cathédrale qui est dirigée par un homme très compétent, Hermann. Et c'est à Reims aussi qu'on voit, lors d'un concile qui est tenu en 1049, le début de la réforme de l'Église. C'est très intéressant, cette histoire, parce que c'est un mouvement de reprise en main. L'Église est toujours en train de se réformer. Hein. C'est un mouvement de reprise en main morale des prêtres qui va continuer avec tant de bonne volonté, puis d'enthousiasme et de patience, le roi bénédictin Grégoire VII. Hein. Saint Bruno, lui, il est le témoin de cette première tentative de lutte contre les deux plaies de l'Église. Oui, il y avait deux plaies dans l'Église à cette époque. Hein. Il faut dire que nous nous trouvons au siècle du grand schisme. Il y a eu un grand schisme 1000 ans plus tôt, ou à peu près, même pas 1000 ans plus tôt à ce moment-là, à peu près. C'est la cassure de l'Église en deux parties. C'est arrivé à ce moment-là, oui. C'est en 1054. Qu'est-ce que c'est que cette brisure? C'est les chrétiens d'Orient, donc ceux qu'on appelle aujourd'hui les orthodoxes, et les chrétiens d'Occident, de langue latine en principe, qui se sont éloignés les uns des autres pour très longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est triste, cette séparation qui n'en finit plus. Ça va faire près de 1000 ans. Là. Et pensez un peu, quoi de plus contraire à ce qu'on trouve dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 17, la prière du Christ qui dit « Que leur unité soit parfaite. Ainsi, le monde saura que toi, Père, tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Et la deuxième plaie de ce siècle, c'est que l'Église d'Occident, notre Église ici, en Europe, là, est aux mains des laïcs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce que les historiens appellent la querelle des investitures. Je m'explique. Le système féodal par lequel tout seigneur, hein, il y avait des seigneurs sous le système féodal, tout seigneur était soumis à un suzerain, son supérieur hiérarchique. Et avait réussi à s'approprier, son supérieur hiérarchique avait réussi à s'approprier jusqu'aux charges. Les charges ecclésiales, les charges d'église, d'évêques, des évêques et du curé. Je m'explique encore plus. En clair, ça signifie que pour être évêque ou curé, il fallait gagner la faveur de l'autorité civile laïque, moyennant quoi on obtenait le poste désiré. Alors, logiquement, on en était arrivé à acheter un diocèse ou une paroisse. Disons que le cardinal Turcotte aurait été obligé d'acheter son poste d'archevêque de Montréal, et même de cardinal probablement, en payant une redevance soit à M. Bouchard ou à M. Chrétien, ou bien aux représentants de la reine. C'est invraisemblable. Et la même chose pour les curés des paroisses ici à Montréal et partout dans le pays. Celui qu'on pouvait considérer comme un prince, un empereur ou n'importe quoi laïque, là, réservait ces titres-là d'évêque ou de curé aux plus offrants. Il se souciait pas, lui, la plupart du temps, des qualités personnelles de ces ministres sacrés qu'il mettait en place. C'était l'horreur. Et pour parler de cet état de fait, là, c'est en fait le prince qui procédait à l'investiture même des membres du clergé. Par exemple, c'est lui qui remettait au nouvel évêque qu'il avait choisi la crosse, l'anneau pastoral et la mitre, les insignes de la charge épiscopale, après qu'il avait été consacré ou ordonné évêque. C'est incroyable. Heureusement, au milieu de cette abomination, de cette désolation, il y avait des lueurs d'espoir dans l'Église qui sont apparues. L'Église avait besoin d'une réforme, énergique, et c'est le pape Grégoire VII, que je viens de mentionner tout à l'heure, qui l'a engagé efficacement, puis il réussit, mais au prix de quelle lutte, à imposer la liberté de l'investiture des prêtres et des évêques, en particulier contre l'empereur d'Allemagne, Henri IV, et il frappe de lourdes peines les coupables. Les coupables de ce qu'on appelait la simonie, c'est-à-dire ceux qui achetaient ou vendaient les charges de l'Église, comme je viens de vous l'expliquer. Puis enfin, il a rappelé à l'ordre son clergé, qui était habitué, lui, à enfreindre la loi du célibat ecclésiastique dans ce temps-là. Et c'était donc une époque extrêmement difficile. Saint Bruno commence donc de sérieuses études théologiques dans cette école cathédrale de Reims. Et là encore, ses mérites apparaissent vite assez remarquables aux yeux des autorités ecclésiastiques. Les autorités, vers 1056, le chargent de devenir écolâtre, c'est-à-dire directeur des études, car il y avait quand même de bons évêques et de bonnes autorités quand même, malgré tout ça. Chargé d'enseignement, il obtient dans cette fonction une grande réputation de science. Pour le restant de ses jours, même jusqu'au cœur de la solitude qu'il va embrasser en fondant les chartreux, qui sont des ermites. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, les chartreux. Ce sont vraiment des gens qui vivent dans des maisons, séparées les unes des autres, mais unies par un grand corridor quand ils sortent de leur maison, et puis ils sortent trois fois par jour pour des prières. Mais autrement, ils mangent seuls, ils prient seuls, ils méditent seuls. Ils peuvent aller à la bibliothèque, par exemple. Puis ils travaillent aussi. Ils ont un atelier dans leur maison. Alors, je reviens donc au fait qu'il est chargé d'enseignement, Bruno, avant de fonder, là. Et puis, il est considéré comme un disciple de la vraie foi, justement, un docteur des docteurs. C'est les titres qu'on lui a donnés au moment de sa mort. Même on l'a qualifié de perle de sagesse. Oh, il y avait 177 titres funèbres qui ont été rédigés par ses anciens élèves après sa mort, hein? En témoignage d'admiration, puis de louange. Et voilà donc quelques traits du visage de ce saint. Je voulais vous dire ça au moins en commençant, que c'était un homme instruit, un intellectuel. Saint Bruno est aussi le témoin d'une Église qui change donc et qui se transforme. Oui, elle se transforme et ça se voit dans certains événements, comme, je vous donne un exemple, l'affirmissement du pouvoir du pape au détriment des églises régionales qui sont sous la juridiction des laïcs, là. Tout ça annonce une crise spirituelle et Saint Bruno est témoin de tout ça. Il devient même acteur dans un conflit qui, justement, exprime bien la réalité de ces tensions. C'est un bon exemple que je vais vous donner. On appelle ça l'affaire Manarès. Je vous résume ça en 2 minutes, 5-6 lignes. Ça pourrait être une longue histoire, mais c'est mieux quand c'est court. C'est en effet pendant plus de 10 ans que Saint Bruno va lutter avec une honnêteté parfaite contre son nouvel archevêque qui s'appelait Manassès de Gournay, qui n'était pas un bon évêque, loin de là. Oui, il s'est révélé bien vite, plus avide de richesse que du soin des âmes. de son territoire. Et cette lutte, Saint-Bruno va l'amener jusqu'à être dépouillé de ses biens, parce qu'il était, il y avait un poste très important dans le diocèse, et il a été exilé pendant 4 ans, avec quelques autres personnalités de Reims, l'ensemble des chanoines, en somme, ceux qui s'occupent de la direction du diocèse autour de l'évêque, qui s'étaient révoltés aussi contre cet évêque épouvantable. Et tout ça a pris fin le 27 décembre 1080. Voyez-vous, je vous ai dit qu'il était né, ça faisait déjà très longtemps, il avait déjà près de 50 ans. 1080, c'est date à laquelle Grégoire VII dépose Manassès, l'archevêque, et ordonne au clergé de la ville de le chasser et d'élire un nouvel archevêque. Alors, qui est-ce qu'on élit? Ben, vous comprenez, hein, les chanoines de Reims, c'est ce que nous dit un chartreux de l'époque, préférait Saint-Bruno à tout autre candidat possible pour le siège de la grande métropole. Mais l'heure était venue pour lui de répondre à un appel beaucoup plus haut, peut-être, aux yeux du moins des chartreux. Et il refuse donc le poste d'archevêque. Puis il quitte tout. Il quitte tout pour le Christ. Alors, comme on a vu, Saint-Bruno ne veut pas devenir archevêque de Reims en Champagne. Même si c'est gratuit, il n'y a pas de frais là à payer comme ça pouvait exister avant. Et il est certain que c'est au cœur de cette période de la vie de Saint-Bruno qu'on peut déceler, si on regarde bien ça, là, une volonté de changer le sens de son existence. Et Bruno, en participant à toutes ces péripéties de la lutte entre son archevêque Manassès, puis le clergé avec lequel il était opposé à ce Manassès, mais il a découvert en lui l'appel d'une autre vie. Une autre vie qui va lui laisser davantage le temps de ce qu'on appelle une recherche intérieure, loin de toutes ces querelles abominables. Et plus tard, alors qu'il va déjà être rentré en solitude, comme on dit, dans une lettre qu'il adresse, on n'a rien que 2 lettres de lui, une lettre qui est adressée à son ami le prévôt Raoul Levert. Un prévôt, c'est un chef de chanoine. Il évoque ces moments où la question d'un choix de vie différent, radicalement consacré à Dieu, le se posait intensément à lui. Voici un petit extrait de cette lettre, c'est très beau. Il écrit donc à Raoul Levert, V-E-R-D. Ton affection se souvient de ce jour où nous nous trouvions ensemble, toi, Foulquois le Borgne et moi, dans le petit jardin attenant à la maison de notre ami Adam, où j'étais alors reçu. Nous avons parlé pendant quelque temps, je crois, des faux attraits et des richesses périssables de ce monde et des joies éternelles. Et alors, brûlant d'amour divin, nous avons promis, nous avons fait vœu, décidé de quitter prochainement les ombres fugitives du siècle pour nous mettre en quête des biens éternels et recevoir l'habit monastique. Or, cette époque connaissait des tressaillements spirituels assez forts, hein, pour que les structures traditionnelles de l'Église apparaissent pas tout à fait préparées là, à cet épanouissement spirituel, un peu comme ça se déroule actuellement dans notre Église de nos jours. Il y a toutes sortes d'épanouissements spirituels, des tressaillements spirituels, hein, un peu partout dans notre Église, vous savez ça, hein. Et Saint-Bruno a dû se rendre compte de l'urgence d'une réelle conversion. Pour lui, comme plus tard pour Saint-Bernard, connaissez Saint-Bernard, la finalité du monde, d'une certaine manière, c'est le cloître. On n'a plus cette conception-là aujourd'hui, vraiment, mais ils avaient cette conception-là à un moment donné. Les cloîtres se sont remplis. C'est d'ailleurs dans cette période de sa vie, à Saint-Bruno, que l'on a fait figurer un épisode. Je vous le raconte parce qu'on le raconte souvent, mais c'est légendaire, c'est pas vrai. Mais c'est intéressant quand même. Un épisode de ce célèbre docteur de l'Université de Paris, une grande réputation intellectuelle il avait, et qui, il était dans son cercueil, il se serait dressé de son cercueil devant notre Saint-Bruno pour annoncer qu'il était damné. Alors, c'est des histoires qui ont beaucoup couru, ça. Un peu pour faire peur au monde, leur donner la peur de l'enfer, la crainte de l'enfer, et les jeter dans l'amour de Dieu. Cette anecdote, d'ailleurs, a été rédigée au XIIIe siècle. Bon, lui, il est mort au début du XIIe siècle. Elle a souvent été traitée par les gens qui ont fait des tableaux, des dessins, les iconographes, comme on dit. Et ça illustre un aspect intéressant de la psychologie religieuse à l'époque, qui a duré jusqu'à nos jours, d'ailleurs. Alors que ces hommes pressentent qu'une authentique vocation ne peut s'épanouir que dans le dénuement et la solitude, il leur est parfois difficile d'affirmer en toute sérénité leur aspiration, puis de renoncer au monde. Alors on trouve un événement ou un récit, parfois une rumeur, qui brusque leur décision, comme cette histoire de cet homme intellectuel qui se dresse dans son cercueil pour dire qu'il est damné. Alors on ridiculise les hésitations devant le passage à une vie religieuse plus exigeante. On se moque de ceux qui veulent pas. Et voilà, ça y est, ça rentre comme des mouches dans les monastères. Et en même temps, on voit la naissance, donc, de nombreux mouvements érémitiques aussi. Il y en a qui ne rentrent pas dans des monastères, mais qui s'isolent, des ermites, mouvements érémitiques. C'est ça que ça veut dire. C'est que le cénobitisme, c'est-à-dire la vie des moines en groupe, les cénobites, comme la fameuse abbaye de Cluny, qui avait des centaines et des milliers de monastères qui dépendaient d'elle, des bénédictins, ça, ou la chaise Dieu aussi, un monastère très important, ça satisfait plus des hommes comme Saint Bruno. Parce que le projet spirituel, ce genre de projet spirituel laisse dans l'ombre l'aspiration à une solitude plus profonde. Ce qu'il voudrait, c'est un peu de cénobitisme, un peu de groupe, là, très peu, mais être ermite, vivre seul. Chez Saint Bruno, donc, trois éléments ont dû concourir à sa décision de se séparer du monde. Tout d'abord, l'expérience des difficultés là, d'une charge séculière, disons, et les soucis qu'on y rencontre hein, dans le monde, là, quasi bras droit de l'archevêque. Ensuite, à Reims, hein. Ensuite, la connaissance de modèles de vie héroïque qu'il voit autour de lui. Il y avait des ermites, des reclus. Des reclus, c'est des gens qui se retirent comme ça. On appelle ça aussi des recluses. On a des monastères de recluses ici, mais c'est pas tout à fait des reclus dans le plein sens du terme. C'est plutôt Jeanne Lebert, au début de Montréal, qui a été recluse, seule, rattachée à la petite église de la communauté des Sœurs de Notre-Dame. Hein? Alors, des reclus, des ermites qui, malgré leurs excès, ne peuvent, par idéal, l'idéal qu'ils incarnent, le laisser indifférent, ça l'attire. Enfin, la recherche d'un dialogue plus personnel avec Dieu, c'est ça qu'il veut surtout, c'est ça. La recherche d'un dialogue plus personnel avec Dieu. Libérer des égoïsmes, des entraves sociales, dans la recherche, disons, du repos de la contemplation, c'est-à-dire la contemplation de Dieu dans un amour qui sacrifie tout. Et au début de 1084, donc à 54 ans, pas jeune, hein, surtout pour l'époque, 54 ans, Bruno décide donc d'abandonner tous ses biens pour une vie de solitude et de pauvreté. Alors il part avec deux compagnons, Pierre et Lambert. Alors il se dirige à l'autre bout de la Champagne, près de la Bourgogne, un peu vers le sud donc, et ils aboutissent dans un lieu proche de Troyes, appelé Sèchefontaine. C'est distant de quelques kilomètres de l'abbaye de Molesme, la fameuse abbaye de Molesme, dirigée par Saint Robert, qui va fonder cette réforme des bénédictins en fondant les cisterciens, où va rentrer Saint Bernard. Et ça va se multiplier, c'est sont devenus les cisterciens réformés, même les trappistes. Hein. On a des cisterciens à Rougemont, puis on a des cisterciens réformés à Oka. Et là, les trois compagnons commencent à mener une vie hérémétique, eux autres. Une vie solitaire, chacun de son bord. Assez vite interrompue, d'ailleurs, par le désir de Pierre et Lambert de suivre une règle de vie moins austère, plus conforme aux coutumes des bénédictins. Alors Bruno, qui a en lui désormais le projet d'une vie là, construite sur le modèle des pères du désert dont je vous ai déjà parlé, vous savez, plutôt en Égypte, là, les pères, puis en Palestine, les pères du désert, il y a longtemps, vers le IIIe siècle. et qui voit, lui, Saint-Bruno, contre sa volonté, un nombre grandissant de disciples affluer vers lui, il n'aime pas ça, tout ce monde qui s'approche de lui, et qui sont attirés par sa réputation de sainteté, alors il décide de s'enfuir, de partir plus vers le sud, accompagné cette fois de 6 hommes quand même, 4 clercs, 4 prêtres, si vous voulez, et 2 convers. Il arrive au mois de juin 1084, ça s'est fait vite, hein, à Grenoble, dans le sud, au pied des Alpes, le sud de la France. C'est un diocèse dirigé par Hugues, qui est un saint homme. C'est une personnalité attirée, comme le montre son biographe, Guigues de Saint-Romain, 5e prieur de Chartreuse, par la vie du haut désert, lui. Et qui lui-même, ce Hugues, a été un temps moine à la chaise Dieu. C'est à cet homme naturellement ouvert, à ceux là, qui fuient le monde, que s'adresse Saint-Bruno et ses compagnons. Ils cherchent un endroit où serait préservé leur désir de tranquillité et de paix. C'est pas facile à trouver, ça. Guigues, très réputé dans l'histoire des Chartreux, moine d'ailleurs, nous dit qu'après un songe où lui apparut Dieu construisant une demeure pour sa gloire et 7 étoiles montrant le chemin, bien, Hugues, qui demeura toujours l'ami puis le protecteur des Chartreux, là, conduit Saint-Bruno et ses camarades, ses amis, en un lieu appelé Casalibus, au cœur du massif de la Chartreuse, à 20 kilomètres de Grenoble, très très haut dans les Alpes. C'est là qu'ils vont fonder la Grande Chartreuse. Hein. On peut mieux choisir comme site pour des hommes en recherche de silence, et c'est niché au cœur d'une vallée profonde, difficilement accessible. Et cet endroit étonne encore aujourd'hui par la beauté puis la force qui s'en dégage et l'effort constant vers l'ascèse, la solitude qui lui donne son visage. Trouve, c'est formidable dans cet environnement, le cadre idéal pour son accomplissement. J'ai eu la chance d'y aller, de loger en Chartreuse. C'est extraordinaire. C'est en cette terre aride, aux hivers longs et rudes, puis c'est froid, je vous assure, que Saint-Bruno et ses amis ont construit un petit ermitage formé de cellules réunies autour d'un cloître, une architecture un peu comparable au l'or, comme on appelait l'or, de Palestine, où il y avait des ermites autrefois. Notre temps, les gens d'aujourd'hui, on peut dire, refusent les spiritualités qui sont pas engagées. C'est ce qu'écrit André Ravier dans un petit livre, L'approche de Dieu sur Saint-Bruno. Le chrétien d'aujourd'hui doit, semble-t-il, et veut prendre sa place dans la communauté civile, dans sa profession, dans des mouvements politiques et sociaux, et voire aussi dans l'Église. Un christianisme sans efficacité temporelle ne l'intéresse pas. L'objection néglige un aspect capital de la réalité divine, dit le père Ravier, qui est jésuite. La présence au monde du Chartreux ne se perçoit en effet que si l'on a la foi et si l'on connaît toutes les dimensions de la révélation chrétienne. Et il ajoute, la vie des Chartreux est une vie mystique qui ne trouve son explication et sa justification, comment, que dans la grande réalité du corps mystique du Christ. Hors de ces perspectives de foi, le Chartreux, en effet, serait le plus inutile des moines parce qu'il est le plus solitaire. Si au contraire on accepte le mystère de notre communion dans le Christ, et quel chrétien ne l'accepterait sans se mettre hors de la vérité révélée, là, alors la vie du Chartreux apparaît comme la plus efficace. Il va jusque-là, hein, Jésus. Comme la plus efficace, la plus fraternelle, la plus universelle, parce que précisément, elle est la plus unie à Dieu. Solidaire parce que solitaire, écrit-il. Alors, Saint-Bruno, faut dire qu'il n'a jamais écrit de règles monastiques. Ce n'est pas un législateur, pas comme Saint-Benoît ou Saint-Augustin. Mais cet homme est un intellectuel, je vous l'ai dit, qu'on peut imaginer à l'écoute de son temps. Il est attentif, je vous l'ai dit, au mouvement d'Église, aux tentatives érémitiques, je vous l'ai dit, qui surgissent alors. Alors, il a entendu parler de certains échecs, mais aussi, il a entendu partie de réussites, des réussites de fondations religieuses. Il en a tiré un enseignement. Or, il connaît l'erreur de principe qui est, chez certains fondateurs, la vaine gloire. qui se cache derrière un choix de vie d'extrême solitude, trop austère et inhumaine. Et ça fait faillite. Inhumaine. Trop austère. Mais il est conscient aussi que sa vocation va perdre une partie de son identité s'il accepte, en plus grande part, là, des éléments communautaires. Il veut pas que ce soit trop communautaire comme les bénédictins. Ce que nous avons déjà rencontré en lui et qui le caractérise profondément, je vous en ai parlé, l'esprit de discernement et de mesure, son sens d'adaptation aux réalités, ça va jouer un rôle déterminant dans la vie de ces solitaires qui l'entourent, ces premiers chartreux, et bien entendu, les principes qui régissent la vie des chartreux, au cours des temps, au cours des siècles, ont pu évoluer dans certains détails, mais le fondement est resté immuable. C'est un ordre qui est comme inamovible. Les chartreux disent une partie de leur office en cellule. Seuls ceux de matines et de vêpres les unissent dans l'église. Et la plus grande part des tâches matérielles est assumée par les convers, les frères convers. Ils ont un rôle économique, ces hommes-là. Oui, ils ne doivent pas être considérés comme inférieurs aux chartreux qui vivent dans la solitude. Ils résident un peu plus bas que les ermitages. Et l'ensemble de la communauté elle-même s'inscrit au cœur du désert quand même, c'est-à-dire de cet espace protégé qui est gardé de toute intrusion. Il y a un mur énorme, des grands murs. Hein. Et puis, en dehors des temps de méditation, de prière et de lecture, les chartreux s'occupent à cette époque de la copie des manuscrits. Et ceux-ci, dont la plupart, heureusement, sont encore conservés malgré les difficultés, témoignent d'une grande maîtrise dans cette activité. Hein. Ce qui marque avant tout la première organisation des chartreux sous Saint-Bruno, c'est sa volonté de durer. Et Saint-Bruno, il faut le répéter, n'a pas désiré un régime trop extrême, je vous l'ai dit. Il veut pas exagérer. C'est pas exagérant, c'est lui. Ses compagnons aussi sont d'accord. Parce qu'il est conscient des possibilités de chacun, puis il n'exige que ce qui est raisonnable. Une volonté d'ermite, ok, adouci par des éléments cénobitiques, comme je dis. Voilà le visage de la vie en chartreuse. Un exemple d'équilibre, d'harmonie, qui permet à l'ordre cartusien, comme on dit, c'est comme ça qu'on dit l'ordre cartusien, l'ordre des chartreux, en dépit des vicissitudes de l'histoire, ils ont été chassés de France et puis des divers pays, ils ont conservé intacte leur vocation. Mais bientôt, Saint-Bruno va devoir quitter sa retraite en chartreuse. C'est assez étrange ce qui lui arrive. En 1088, ça fait pas longtemps qu'il est là quand même, Eudes de Châtillon, qui à Reims avait été l'élève de Saint-Bruno, vient d'être élu pape sous le nom d'Urbain II. Il a été formé à l'enseignement et à la personnalité de Saint-Bruno. Il désire en faire l'un de ses conseillers. Alors, on est au début de 1090, quand un envoyé du pape arrive à l'ermitage de Chartreuse, porteur d'un message qui appelle Saint-Bruno à Rome. Il est obligé d'obéir. Il est très triste, ça. Il cède. Ses moines sont désorientés. Ils décident de rompre leur solitude, d'en finir avec la fondation. Parce que sans l'autorité puis le rayonnement spirituel de Saint-Bruno, leur choix leur semble vide de sens. Hein. Ça tient souvent une forte personnalité au début. Hein. Et puis le désert qui leur a été donné est rétrocédé donc à l'abbaye de la Chaise-Dieu dont un prieuré possédait les droits avant l'arrivée des chartreux. Là. Et le fondateur, lui, Saint-Bruno, semble renoncer lui-même à sa vocation. Alors, c'est l'éclatement de la communauté qui semble irréparable. Mais Bruno, heureusement, s'aperçoit que tout ça risque de tomber. Et, en tout cas, il ressaisit ses premiers compagnons. Il les convainc efficacement de continuer leur vie au désert, car sous l'autorité du nouveau prieur Landuin, ils acceptent. Ils acceptent de reprendre la vie contemplative sans leur maître Saint-Bruno. Bruno ne reviendra jamais à la Grande Chartreuse. Son séjour à la Grande Chartreuse n'a été que de 6 ans. Et arrivé dans une Italie où il y a des luttes entre le pouvoir temporel et l'Église et où le nouveau pape Urbain II se trouve confronté au début d'un schisme de pape là, en la personne de l'antipape Clément II, Bruno a l'impression encore de revivre les mêmes événements qu'à Reims, au temps de l'archevêque Manassès de Gournay, là. Et plus ça change, donc plus c'est la même chose. Et pour remercier Bruno de s'être rendu auprès de lui, mais aussi Avec l'arrière-pensée est plus politique d'asseoir son pouvoir dans une Italie qui est livrée à toutes sortes de factions, le pape Urbain II propose à son ancien maître à Reims, notre saint, Saint Bruno, il propose l'évêché de Reggio en Calabre. Et comme pour Reims, Bruno refuse, il veut pas être évêque. Mais voilà peut-être une autre phase de sa sainteté, un deux fois pressenti donc à des fonctions élevées d'évêque ou d'archevêque, il y renonce à chaque fois. Il a en lui l'intuition que c'est se perdre, qu'intervenir dans les affaires où la politique, à l'époque, domine le religieux. Ce n'est plus du tout comme ça. La nostalgie de la solitude l'habite entièrement. Et son espoir est que le pape Urbain II lui permettent de reprendre la vie au désert. Et finalement, en tout et pour tout, son séjour à Rome ne dure que quelques mois, car le pape enfin cède aux prières de notre saint. Puis en 1091, saint Bruno obtient la permission de reprendre la vie de silence. Et là, s'il y avait une région en Italie où le monachisme trouvait une terre hospitalière, c'était bien la Calabre. Pourquoi? C'est situé aux portes de l'Orient. La Calabre, elle s'ouvre aux influences spirituelles du monde grec à cette époque-là. Puis d'ailleurs, on y trouve des monastères qui relèvent de la règle de Saint Basile, le moine d'Orient. Or, un comte d'origine normande gouverne cette partie de l'Italie. Puis il tient particulièrement à voir s'y implanter le monachisme occidental. Il est occidental, il est Normandie, hein. Et en l'occurrence, il fait don donc à Saint Bruno d'un désert assez vaste, à la pointe de la Calabre, dans le sud de l'Italie, Santa Maria della Torre, que Bruno décrit dans sa seconde lettre à ses fils chartreux comme un site agréable qui forme une plaine vaste et gracieuse, qui s'allonge entre les montagnes avec des prés verdoyants et des pâturages émaillés de fleurs. C'est une belle description, ça donne le goût d'y aller, hein. Or, on pourrait s'interroger sur la raison pour laquelle Saint Bruno n'a pas voulu rejoindre ses premiers compagnons en Chartreuse. C'est étrange. D'accord, il est retenu par la volonté du comte de Normandie, qui dirige le sud, la Calabre, le comte Roger qui s'appelait. Mais peut-être qu'il a aussi compris que sa première fondation, désormais, ne lui appartient plus, la Grande Chartreuse, et qu'il doit en laisser la responsabilité à son prieur, qui lui a succédé. Il tient à se comporter en père spirituel. Comment témoignent d'ailleurs les conseils pleins de sollicitude qui sont connus dans sa lettre à ses fils chartreux? À Santa Maria della Torre, donc, cette nouvelle fondation, bien, Saint Bruno reprend peu à peu les mêmes observances qu'à la Grande Chartreuse. Et entouré de quelques amis, il construit un ermitage où, à nouveau, la vie communautaire, la vie érémitique se trouve combinée, là. Et là, il passe 10 années dans une pratique d'un ascèse qui a du bon sens et de ce qu'on appelle le repos en Dieu. Paisiblement, après avoir, selon la tradition, témoigné de sa foi, il a vraiment affirmé sa foi en mourant, il s'éteint le 6 octobre de l'an 1101. Et Saint Bruno est canonisé beaucoup plus tard, 400 ans plus tard, le 19 juillet 1514 par Léon X. Et son culte est étendu toute l'Église, encore 100 ans plus tard, par Grégoire XV en 1623, donc plus de 500 ans après sa mort. On peut s'étonner de ce long délai pour un homme dont l'autorité spirituelle était absolument pas discutée. Je vous en ai mentionné tout à l'heure des titres qu'on lui a donnés au moment de sa mort. C'est des grands éloges, hein, 157 éloges. Et en fait, cela tient d'abord à la discrétion relative, des chartreux eux-mêmes. Ils préfèrent, en effet, eux autres, la solitude de leur cellule à des grandes commémorations qui risqueraient de perturber leur solitude, hein, car ils sont vraiment entourés par des grands murs, et c'est pas, y a personne qui peut rentrer là-dedans, hein, sauf exception. Ensuite, la vie de Saint Bruno, malgré sa richesse, est très très simple, au fin, comme vous avez pu voir. C'est un homme qui a obéi avant tout, à sa vocation, quoi. Sans avoir éprouvé le besoin de définir très très clairement une voie religieuse idéale. Il y a quand même... il est resté modeste à bien y penser. Hein. Et enfin, Saint Bruno, qui n'a jamais été prêtre. Saviez-vous ça? Jamais été prêtre. S'est toujours refusé aussi, évidemment, à l'épiscopat. Il aurait fallu être ordonné prêtre pour ça. Or, comme on l'a fait remarquer dans les siècles suivant sa mort, ce sont justement les religieux devenus évêques que l'on a cherché à glorifier dans ce temps-là, afin de démontrer la qualité nouvelle d'un clergé séculier qui avait été longtemps discrédité et que l'Église s'était réformée. Et nous avons ainsi deux chartreux évêques qui illustrent cette question, saint Anthelme de Chignan, mort en 1178, dont 77 ans après Saint-Bruno, et Hugues de Lincoln aussi, mort en 1200, ils ont été tous deux canonisés bien avant Saint-Bruno. Et sur l'ordre des chartreux, il n'y a rien que cet ordre-là qu'on peut dire qui témoigne de l'importance de notre Saint-Bruno comme un modèle toujours présent. Il est célébré dans le monde entier, Saint-Bruno, mais qu'est-ce qu'on en sait? On en sait qu'il a fondé les chartreux et que les chartreux fabriquent une belle liqueur qui est aussi bonne que celle des bénédictins. C'est la chartreuse. Hein? Mais qu'est-ce qu'on sait d'abord? Je vais vous expliquer ça davantage tout à l'heure, parce que ça reflète l'ordre des chartreux, la personnalité du fondateur. C'est équilibré, c'est silencieux devant le monde. Et tout en participant vraiment à la vraie vie monastique, il se situe un peu à part des grands courants bénédictins et cisterciens, etc. Il offre, par la rareté de ses vocations, on pourrait dire une espèce d'ébauche de la perfection. Vous savez qu'on calcule que sur 40 ou 50 qui essaient, font une tentative, il y en a un seul qui reste. C'est pas une vie facile. Dans une lettre qu'il écrivait, ce que la solitude et le silence du désert apportent d'utilité et de divine jouissance à ceux qui les aiment, ceux-là seuls le savent, qui en ont fait l'expérience, écrit Saint-Bruno. Là, en effet, les hommes forts peuvent se recueillir autant qu'ils le désirent, demeurer en eux-mêmes, cultiver assidûment les germes des vertus et se nourrir avec bonheur des fruits du paradis. Et Saint-Bruno ajoute, c'est très beau, là, on s'efforce d'acquérir cet œil dont le clair regard blesse d'amour le divin époux et dont la pureté donne de voir Dieu. Là, on s'adonne à un loisir bien rempli et l'on s'immobilise dans une action tranquille. Là, Dieu donne à ses athlètes, pour le labeur du combat, la récompense désirée. Qu'est-ce que c'est la récompense désirée? C'est une paix que le monde ignore et la joie dans l'Esprit Saint. Il y a des chartreuses un peu partout dans le monde, et il y en a une immense dans laquelle j'ai habité quelque temps, dans le Sussex en Angleterre. C'est la chartreuse de Saint-Hugues ou Saint-Hughes, près de Horsham, donc dans le Sussex. Et puis il y a la Grande Chartreuse, où là, on m'a invité à habiter une maison. J'étais tout surpris. C'est le maître des novices qui est venu me chercher. Je n'avais pas l'intention d'y rester, mais j'ai passé quelque temps là et j'ai énormément aimé ça, mais je ne m'y voyais pas pour la vie. Car, comme le dit un auteur dans un très beau livre que je vous recommande, publié aux éditions Nouvelle Cité, « La vie cachée des chartreux » par Lockhart, L-O-C-K-H-A-R-T. Demandez simplement « La vie cachée des chartreux » aux éditions Nouvelle Cité. Chapitre 11. Qui entre chez les chartreux et comment? Il dit, à chaque fois qu'on m'interroge sur les chartreux, les premières questions traitent en général du type d'existence menée dans une chartreuse. Eh bien, je vais vous dire simplement que vers 7h moins quart, on se lève le matin et puis on récite seul à 7h l'office de prime. On a une stalle, comme dans un monastère, là, mais il y en a une seule dans notre maison. Une place pour prier. Puis on fait l'oraison. Puis on lit la Bible. Et puis, à 8h, eh bien, il y a la messe conventuelle. La messe, tout le monde sort, se rend à l'église et chante grand-messe. Et puis, à 10h, seul dans sa cellule, on récite l'office de tierce. On n'a pas mangé encore. Et puis, arrive finalement, à midi, l'office de sexte. L'étude, travail, puis vers midi et demi à peu près, ou 1h moins quart, c'est le repas qui nous est livré à travers un mur On voit personne qui lui apporte le repas. Un repas qui n'est pas très nourrissant, mais assez bon. C'est végétarien. Puis il y a une détente, donc on peut prendre une petite sieste. Et puis à 2 heures, c'est l'office de nonne, de l'étude, du travail. Puis à 4 heures de l'après-midi, les vêpres et l'office de la Sainte Vierge. Tout ça se fait seul dans la cellule, dans la maison. Puis après ça, bien à 5 heures, on se rend à l'église pour les vêpres. Ensuite, on revient en cellule, on fait l'étude. Puis là, on nous sert une collation. Une salade, un œuf, un fruit, des affaires comme ça. Puis le vendredi, c'est jeûne, pain et eau, hein, toute la vie. c'est pas facile. Et puis, il y a l'oraison seul, et puis l'office des complis, en cellule, toujours seul, puis le coucher. Oh, le coucher, c'est vers, 7h30. Oui, 7h30. Mais on se lève vers 11h30. Quelqu'un qui vient frapper dans la porte à grand maillet, et puis ça réveille. Hein? Puis là, il faut prier des matines, seul. Puis là, on sort de l'église, là, disons vers minuit et quart. Et puis, on s'en va à la chapelle pour les matines et les laudes, comme dans les monastères. Puis on revient en cellule vers 2h30, puis les jours de fête, parce que c'est beaucoup plus long, à 3h30. Ça vous donne une idée du genre de vie qui n'est pas facile. Si vous voulez donc en savoir plus, il y a beaucoup de livres sur les chartreux, vous en trouverez avec des illustrations admirables. Vous pourrez lire aussi, ce que je vous recommande, c'est « Amour et silence » par un chartreux, ou bien « L'ermitage » par un moine. « Amour et silence » est aux éditions du Seuil. Et puis, l'Ermitage, c'est aux éditions Claude Martin-Gay, à Genève. C'est un très beau livre, ça. L'Ermitage, par un moine. Il y a aussi quelque chose qui est chartreux, dans un sens, c'est Le Nuage d'inconnaissance, est l'un des plus grands livres de spiritualité. L'auteur est inconnu. C'est aux éditions du Seuil. C'est fantastique, Le Nuage d'inconnaissance. Et puis, il y a un petit livre pas cher chez Mediapol, aux éditions Saint-Paul, là. Frère Ivan, I-V-A-N, désert. Ah, c'est un ermite bénédictin. Mais je termine en vous disant, par un extrait de Amour et silence, par un chartreux. Par la conversation et l'action, les hommes cherchent à sortir de leur solitude. Ils essaient de nouer entre eux des rapports. Ces relations extérieures chez nous, chartreux, sont réduites à peu de choses, mais non pas supprimées. Une sagesse faite d'expérience au cours des siècles a fixé dans notre vie la mesure des récréations dont nous devons profiter pour éviter de demeurer étrangers les uns aux autres, nous appliquant avec délicatesse à maintenir la bonne entente. Mais ceci ne peut aller sans quelque effort. Car pour autant que nous sommes tournés vers l'extérieur, justement, nous traduisons dans nos paroles et nos actes une partie infime de la vérité divine présente en nous. Traduction misérable, qui est toujours un peu une trahison, et qui nous oppose les uns aux autres, plus souvent qu'elle nous rapproche. Oui, les hommes mondains, c'est-à-dire superficiels, et nous sommes mondains, nous aussi, chartreux, dans la mesure où nous sommes superficiels, ne peuvent se comprendre mutuellement. Puis là, il agit quelque chose de magnifique. Les terribles conflits qui déchirent le monde sont la conséquence d'un manque général de vie intérieure. Si nous voulons garder l'héritage de paix et de joie que notre Seigneur nous a laissé, si nous voulons sauver l'amitié spirituelle entre nous, nous devons nous oublier les uns les autres et nous oublier nous-mêmes pour nous retrouver en Dieu, car c'est en lui seul que les créatures peuvent se rencontrer et s'unir vraiment. Il y a beaucoup d'autres livres sur les chartreux, j'en ai beaucoup. C'est tellement merveilleux, et je crois que l'idée profonde de ces chartreux, c'est que Dieu est bon. Il nous faut l'aimer, afin d'être bon à son image et à sa ressemblance. Mais de quel amour pouvons-nous aimer Dieu? Voilà. Ça varie dans l'Église. Des gens se précipitent vers les plus pauvres et vivent avec les pauvres. jusqu'à l'autre bout de la chaîne, qui fait comme un cercle. Et c'est toujours l'église. Il y a les chartreux. On ne peut rien laisser. Tout ça, c'est dans le corps mystique, et c'est dans cette grande église, qui est l'église catholique. La même chose existe en grande partie dans l'église orthodoxe. C'est ainsi que se termine cette émission consacrée, donc, à Saint-Bruno. Au micro, Raymond Beaugrand-Champagne.